With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et bien sûr, je vais le présenter avec l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, merci encore de m'accueillir dans Poulain Rafut. Un Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un petit peu partout, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité à l'international, à la carrière assez colossale.
Oui, et vu l'actualité, Arnaud, on va parler, et je vous le donne en mille, d'Irlande, bien entendu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'Irlande, je m'en fais une image assez particulière. Non pas parce que j'ai chopé l'appendicite à Dublin et que j'ai passé une bonne semaine en service gériatrie alors que j'étais aux portes de l'équipe de France en 2001. Non. Non pas parce que, ivre à 6h du matin, je chantais au pouce au crime du Michel Sardou, confondant le Connemara et le col des marins, passant pour un con pendant une bonne vingtaine d'années. Non. L'Irlande, pour moi, c'est le Munster, battu en demi-finale de Coupe d'Europe avec le Stade français et 9000 supporters acquis à la cause de leur équipe rouge à Villeneuve-d'Ascq. L'Irlande, c'est un public mythique, le public mythique de l'Ulster, du Leinster et de leurs équipes nationales en foot, en rugby. Et voilà, je trouve que voilà, ce public est exemplaire. L'Irlande, c'est Conor McGregor, c'est Brian O'Driscoll. Ce sont ces batailles épiques sur le terrain avec des types guerriers qui ne lâchent rien. L'Irlande, c'est aussi l'histoire du pays qui attache, qui intrigue, et qui accroche. L'Irlande, je le disais, c'est guerrier, c'est coloré, c'est le courage, c'est dans leur sang, c'est rageur. L'Irlande, pour moi, c'est une lutte constante pour l'existence. Et notre invité, on est un pur produit. On a joué quelques fois l'un contre l'autre quand il était à Castres ou en Ulster. Il est de la trempe des Paul O'Connell, des Devin Toner, des deuxièmes barres rugueux, lourds, massifs et qui ne lâchent rien, qui s'accrochent jusqu'à la dernière minute comme la boue sous les crampons un soir d'automne à Ravenhill Stadium. Voilà, Jeremy Davinson, c'est 32 sélections avec l'équipe d'Irlande et 3 avec les Lions britanniques. C'est une Coupe du Monde en 1999 et c'est surtout un parcours de coach humble, travailleur, rigoureux et pointilleux. À la fin de sa carrière, il entraîne 4 ans dans son club formateur, alors au Dungannon RFC, j'espère que ma langue n'a pas fourché, avant d'entraîner les Avants de Castres, puis de l'Ulster, du Stade Auriacois, ainsi qu'à l'UBB, avant de devenir manager du CA Brive Corrèze, qu'il ramène en top 14 dès sa première saison en 2019 en tant que coach. Il nous racontera comment il vit en Corrèze un rugby spécial avec un groupe, une équipe qui tient la dragée haute au cador du top 14 et qui est aujourd'hui 9e du championnat. Non, Brive ne joue pas sa survie cette année et compte bien déranger la hiérarchie à grands coups de surprise et de coups d'éclat. Dernier coup d'éclat d'ailleurs en date, et je vous invite à regarder les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, il y a une super présentation de Saïd Iresh, capitaine emblématique du terroir, de ce club terroir, qui vient de re-signer encore pour un an. Et voilà, donc Jérémy nous donnera donc son point de vue sur leur prochaine rencontre face à Bayonne ce week-end, mais aussi son regard sur la confrontation du week-end entre l'Irlande et la France. Sexton va-t-il jouer? Est-ce un match piège pour l'équipe de France? Bière ou bien whisky, le coq va-t-il clapper le trèfle? Mesdames et messieurs, rien de mieux qu'un spécialiste irlandais en terre française pour nous parler de son rugby. Merci Jérémy Davidson d'être dans Poulain Rafut.
Salut Raph, salut Arnaud, merci de m'accueillir avant ce match fabuleux de ce week-end, malgré la manque de présence des supporters. Je pense que l'Irlande, pour une fois, on est peut-être pas les favoris de gagner ce match. Et je vous rappelle que ça fait 10 ans que la France n'a pas gagné à Dublin.
ça commence bien, c'est bon. Alors Jérémy, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation parce que évidemment, on va parler du CA Brive de Corrèze, pardon, et de la saison des Corréziens. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle avec toi de ta carrière avant de parler justement de ce match spécial entre l'Irlande et la France ce week-end. Quand on regarde ton CV, il est assez incroyable, comme je le disais. Tu as entraîné voilà pas mal d'avant, notamment à l'Ulster, dans ton club formateur, mais aussi à Castres, à l'UBB, à Aurillac. Et pourtant, tu es quelqu'un d'assez discret, tu es rare dans les médias et tu as quand même un parcours assez incroyable. Donc, on parle peu de toi. Je voulais savoir pourquoi.
Ça, je ne sais pas. Je pense que notre boulot, c'est de donner plus value aux joueurs. Et Si on est sur le terrain le plus possible, je préfère que les points pressent. Donc, je pense que le boulot, c'est important d'inculquer les valeurs aux joueurs. Et voilà, j'essaie d'être le plus discret possible.
J'ai juste une petite question avant, Arnaud. On a eu Yann Delegue la semaine dernière qui nous parlait de ce métier de manager et de coach, qui est un métier qui est anxiogène au possible, qui est, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas comment tu le vis, mais quand on voit les managers sur le bord du terrain, quand on voit le stress que ça peut engendrer chaque semaine, chaque week-end avec les blessés, surtout dans un contexte sanitaire très, très particulier, sans le public, comment tu vis justement cette saison un peu particulière et comment tu vis ce stress au quotidien?
C'est vrai que maintenant, en ce moment, on se rend compte du stress des matchs parce que quand il y a le public, on n'entend plus les managers. Mais maintenant, il n'y a pas le public. On est en train de parler de tous les managers. Quand on s'engueule entre nous, quand on engueule l'arbitre le moins possible. C'est vrai qu'on rend compte que c'est stressant d'être au bord, mais aussi c'est passionnant. On est là pour ça. On a la chance de rester dans notre passion, le rugby. Il y en a beaucoup de jeunes qui aimeraient être à notre place.
Jérémy, moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta façon de manager, parce que dans les différents clubs où tu es passé, tu as souvent fait entre guillemets des miracles. Je pense notamment à ton passage à Aurillac, où avec vraiment très peu de moyens, je disais tout à l'heure de façon un peu caricaturale avec des bouts de ficelle, tu as réussi à jouer une finale d'accession en top 14, tu as joué plusieurs matchs de phase finale, un truc incroyable, tu es resté je crois 35 matchs à Jean Alric invaincu, c'était vrai, on disait que c'était la forteresse, la citadelle de Jean Alric. C'est quoi la recette Davidson?
Je sais pas vraiment s'il y a une recette de Davidson. On essaie de mettre les choses dans l'ordre. Donc, les choses dans l'ordre, c'est important dans chaque club d'avoir le soutien de tout le monde. Et à Aurillac et maintenant à Brive, on a vraiment le soutien de tous les dirigeants et tous les administratifs et tout le monde. On pousse le projet le plus possible ensemble pour avoir une vision pour tout le monde. Après, les joueurs, je pense que c'est important d'avoir une vue sur le long terme et pas que le court terme. Je pense qu'il y a pas mal de managers qui vivent dans l'instant. Et je trouve que notre métier, c'est, comme je disais, c'est de donner plus-value, d'essayer d'amener les joueurs vers une nouvelle dimension. Donc, de faire un recrutement avec une vision, avec des jeunes joueurs qui peuvent assurer le futur du club. Je pense que c'est important de mettre les bonnes bases aussi. Donc, j'étais toujours un entraîneur de conquête. Donc, on a toujours eu un bon mêlée, une bonne touche pour pouvoir mettre les choses dans l'ordre, les lancements du jeu, la défense de l'équipe. Je pense que c'est important de savoir où on va et comment on va arriver.
En parlant de méthode, Jérémy, j'aime beaucoup le coaching mental, le mental coach, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais la culture anglo-saxonne aux États-Unis, en Angleterre et sûrement en Irlande, et tu vas nous en toucher deux mots. Cette approche mentale, en France, elle a beaucoup de mal, à s'imposer. Je parle pas, on est beaucoup sur tu connais ça, hein, le mental, on a des couilles, on a du cœur. Ça, c'est l'aspect français un peu primaire des années 90 et 2000, du rugby que tu as connu et que j'ai connu aussi. Mais aujourd'hui, l'approche mentale, l'approche psychologique, la notion de plaisir, la notion de jeu, la notion d'enjeu, elle est très importante. C'est quoi ta vision sur ce mot mental que les managers français ont un petit peu de mal à assimiler, persuadés que c'est de leur compétence, alors que c'est une compétence particulière? J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus.
Déjà, quand on arrive en France, il faut accepter la culture française. Ouais. C'est très important, sinon ça ne va pas marcher. Vous êtes des Latins, vous avez un esprit qui est parfois un peu comme ça. Donc, nous, les Anglo-Saxons, il faut accepter ça. Il faut amener un peu de rigueur et il faut essayer de mettre les choses en ordre. Si je faisais une autre critique tout de suite, les gens peuvent dire que peut-être je suis un peu froid, peut-être un peu dur, mais c'est pour le bien de tout le monde. Donc, je pense maintenant avec un peu plus de maturité, je suis devenu un petit peu plus souple que mes années précédentes d'entraîneur où j'ai commencé en Irlande et j'ai beaucoup évolué là-dessus. Donc, l'aspect mental, en France, c'est très, très important. En sachant qu'on joue dans un championnat qui est vraiment dur mentalement. En Angleterre, c'est le spectacle. Ils jouent de partout, ils essaient de mettre du rythme. En Irlande, en Ligue Celt, il n'y a pas de descente. Donc, il peut jouer pour former des joueurs. Il y a très peu des étrangers. Donc, la notion, c'est vraiment d'essayer de bonifier l'équipe nationale dans l'Écosse, dans le Pays de Galles, dans l'Irlande. Mais en France, ce championnat, il est vraiment dur. Tout le monde sait où les autres équipes sont dans le championnat. Tout le monde sait qui joue les phases finales, qui joue le maintien. Et c'est une épreuve qui est très, très longue.
On voit que tu réussis une belle carrière. Comme je l'ai dit, tu as repris les choses à la base avec ton club formateur et tu es monté en puissance jusqu'à l'UBB pour devenir coach aujourd'hui du CA Brive-Corrèze. Tu as été dans des clubs qui n'ont pas, peut-être à part Bordeaux qui a franchi cette étape cette année avec Urios, mais tu as été dans des clubs qui n'ont pas eu beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'il n'y a pas un rêve pour Jérémy Davidson d'entraîner une grosse écurie qui vise justement les sommets? Est-ce qu'il y a ce rêve Bon, c'est difficile de te poser la question, sachant qu'aujourd'hui, tu es à Brive. Mais Brive aussi dérange quand même la hiérarchie avec ses coups d'éclat, comme je le disais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit rêve caché de vouloir entraîner une grosse écurie et voir une équipe nationale un jour?
Je remercie tous les clubs que j'ai entraînés avant, parce que c'était vraiment formateur de commencer dans mon ancien club en Irlande, de faire les avants en Ulster, d'être head coach de Aurillac pendant 6 ans pour essayer de vraiment tirer le mieux de nos moyens et avoir des résultats qui sont un peu plus hauts que leur budget. Donc, je trouve ça vraiment formateur. Maintenant, on a un projet à Brive qui est vraiment palpitant, parce qu'on a des nouveaux infrastructures, un nouveau centre de performance, un groupe qui est vraiment jeune, qui vise plus haut. Mais d'abord, on veut assurer ce maintien, même si on est 9e pour l'instant. On sait que le championnat est vraiment, vraiment homogène et très, très proche. Donc, l'ambition à court terme, dans les semaines à venir, c'est d'assurer le maintien le plus possible. Après, avec ce groupe, on veut être ambitieux pour les jeunes joueurs qu'on a. Et ils commencent à prendre confiance, prendre maturité. Et on voit bien que hier, Saïd Iresh, il a re-signé pour 1 an de plus. Ça nous donne une certaine sérénité dans la préparation des matchs, dans les préparations à saison à venir. Et de point personnel, moi, je suis très, très bien dans le Corrèze pour l'instant. Et j'essaie de me projeter sur cette aventure-là et pouvoir faire le mieux possible. Donc, le sport, c'est vraiment fabuleux. On joue au sport pour pouvoir renverser la tendance et pour que les petits écuries fassent chier à tout le monde. Donc, nous, on a cette ambition de rentrer dans le box un peu plus haut de notre budget.
Alors justement, tu parles du budget, Jérémy. J'ai un peu travaillé parce que j'ai retrouvé une interview de toi dans Midi Olympique où tu disais « Certains ont la chance d'avoir un chéquier XXL pour acheter les meilleurs joueurs et d'autres aiment découvrir les nouveaux talents et les faire progresser ». Je crois que c'est un petit peu ton credo hein, quand on voit ce que tu as fait, notamment. Enfin, moi, j'ai souvenir notamment de cette formidable épopée d'Aurillac où tu as fait émerger de nombreux jeunes joueurs. Comment tu t'y prends pour aller dénicher les perles rares? Comment tu travailles? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est des heures et des heures devant la vidéo? Comment tu travailles?
Je pense que tous les entraîneurs sont les mêmes. Il faut passer devant l'ordinateur jusqu'à les...
Oui, mais il y a ceux qui ont le chéquier XXL, comme tu dis.
Oui, oui. Mais il faut passer devant l'ordinateur jusqu'à les jeux deviennent carrés. Après, il faut avoir un bon réseau, hémisphère sud, hémisphère nord. Il ne faut pas avoir peur de regarder un peu plus loin. Par exemple, on a un pilier fidjien qu'on a ramassé en Roumanie il y a 2 ans. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de faire des paris. Et après, le travail. Les joueurs qui arrivent, il faut qu'ils acceptent la culture. Il faut qu'ils viennent pour les bonnes raisons. Il faut qu'ils aient la mentalité de bosser plus dur que les autres équipes dans ce championnat. Et aussi, je pense que tout le monde a la même vision de rugby, mais les joueurs qui viennent à Brive, maintenant, il faut qu'ils soient ambitieux pour le futur. Avoir un chéquier XXL, tout le monde aimerait avoir Eben Essebet dans leur effectif, mais tout le monde ne peut pas avoir. Donc, on essaie de trouver des joueurs qui sont un peu moins chers, mais qui donnent de plus-value à notre équipe. Et maintenant, je trouve que de plus en plus, l'état d'esprit est primordial de l'effectif. Il ne faut pas juste avoir 23 joueurs qui peut jouer en top 14. Il faut que la quarantaine, 50 joueurs, ils ont la même vision des choses.
Ouais, ils se sentent vraiment impliqués. J'aimerais revenir sur ces fameuses trois sélections avec les Lions britanniques. Nous, on a la chance d'avoir les Barbarians français. Voilà, c'est un état d'esprit très particulier. Et comme je le disais dans ton
attention, c'est très différent, Raph, quand même. Hein. C'est très différent.
Non. Attention, je parle juste.
Faut pas comparer. Hein. Les Lions, quand ils partent en tournée, c'est des milliers de personnes qui voyagent avec les Lions. J'ai jamais vu ça avec les Barbarians français.
Je parle du côté mythologique, on va dire, des Lions britanniques et des Barbarians français. On est d'accord, tu vois, sur le fond. Quand tu regardes ces équipes, elles font rêver un petit peu plus encore, on va dire, que les équipes nationales, comme l'équipe d'Irlande, comme l'équipe de France. C'est participer aux Barbarians. Moi, j'ai une sélection. C'est absolument magique et magnifique. Donc, je voulais justement te poser la question, Jérémy. Qu'est-ce que représente justement ce maillot pour un anglo-saxon, le maillot des Lions britanniques? Et voilà, quelle aventure et qu'est-ce qu'il en ressort, en fait, de ces trois sélections?
Déjà, je vous remercie de parler de ma carrière parce que je passe le constat que j'ai commencé à jouer quand les ballons étaient en cuir. Et les maillots, ils pesaient au moins 10 kilos chacun en coton. Donc, c'était pas hier. Les Lions britanniques, pendant 4 ans, on se bat entre nous, les Gallois, les Écossais, les Anglais, les Irlandais. Parfois, on a fait un petit bagarre, on est marché dessus, le disque gallois, on a fait mal au centre écossais. Et tout d'un coup, tu es dans une bus ensemble. Et là, c'est vraiment, vraiment bizarre. Donc, il faut que vous deveniez une équipe soudée, solidaire, avec un état d'esprit hors norme pour battre les champions du monde comme les Sudafs, comme les Nouvelle-Zélandais, etc., tout de suite. Et vous avez peut-être 4 à 5 semaines pour le faire. Donc, c'est un truc incroyable. Parce que pendant 4 ans, vous êtes les plus grands ennemis possibles. Vous échangez pas. Vous préparez en Coupe d'Europe, en Premiership, en Ligue Celt, en match international de 6 nations. Et tout d'un coup, vous êtes dans un avion pour aller en Australie, à l'autre bout du monde. Donc, l'histoire des Lions britanniques, c'est fabuleux. À une époque, dans les années, je pense que c'était dans les années 40 ou 50, il y avait un joueur qui a cassé la jambe dans le dernier match du 5 Nations. Et les Lions britanniques, comme ils avaient 3 mois de bateau pour arriver en Nouvelle-Zélande, le joueur, il est allé quand même. Et quand ils sont arrivés, il courait. Donc, il avait joué quand il est arrivé. Donc,
c'était un Irlandais?
Non, je pense que c'était un Gallois. mais cette histoire, pour moi, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est folklorique, comme vous disiez. La blague en 2001, quand on était... Parce que j'ai fait 2 tournées en 97 en Afrique du Sud. Et en 2001 en Australie. Et la blague en Australie, c'était « J'espère que le dernier Gallois, il a atteint la lumière avant de venir. » Parce qu'il y avait peut-être 100 000 Gallois en Australie. C'était vraiment... c'est une équipe qui prend l'ampleur et une équipe qui magnifie toute la solidarité, tout l'état d'esprit, toute l'amitié qu'il y a dans le rugby Six Nations. Ça se met ensemble Et après, on fait un voyage ensemble pour vraiment jouer contre les meilleures équipes du monde. Donc, c'est fabuleux.
Justement, Jérémy, 97, tu parles de l'Afrique du Sud. C'est une tournée victorieuse pour les Lions. C'est quoi les souvenirs? Parce que tu le dis très bien, quoi. Tu te retrouves à pousser à côté du deuxième ligne gallois ou anglais, entre qui tu t'es peut-être filé 2-3 pignes 6 mois avant. Raconte-nous comment tu as vécu cette tournée typiquement en Afrique du Sud qui sortait en plus de l'apartheid. Ça devait être très particulier comme contexte.
Mais déjà, la chance qu'on avait à cette époque, c'était que Jim Telfer et Ian McGeachan étaient les entraîneurs. C'est deux entraîneurs historiques de l'Écosse, des Lions britanniques, qui ont joué pour l'Écosse et les Lions britanniques. Donc, ils savaient parfaitement qu'est-ce qui nous attendait et comment organiser pour avoir le meilleur état d'esprit, la meilleure solidarité pour battre les Springboks. Et à cette époque, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangeaient en Afrique du Sud, mais ils étaient 10 kilos par personne, plus lourds, plus gaillards, plus costaud que nous. Donc, c'était vraiment pas donné de gagner là-bas. Mais c'était une histoire formidable où tu as peut-être Jason Leonard qui a joué, je ne sais pas, 120 fois pour l'Angleterre, qui était même pas dans le groupe pour les tests. Mais il était à 100% derrière Paul Wallace, Tom Smith et tous les autres joueurs. Donc, c'est une histoire qui se forge tous les quatre ans et on voit depuis très longtemps qu'ils arrivent à faire prendre cette mayonnaise qui fait la différence.
Juste avant de donner la parole à Raph, un petit point d'actu. Jérémy, est-ce que tu as des infos justement sur la prochaine tournée qui normalement doit se dérouler cet été des Lions et qui malgré le contexte sanitaire, ça risque d'être compliqué, non?
On voit à quel niveau que les Britanniques et les Irlandais, on aime les tournées des Lions britanniques. L'entraîneur d'Afrique du Sud, il a dit si nous, on ne peut pas accueillir la tournée des Lions britanniques, peut-être on peut aller à Londres ou en Angleterre pour le faire. Aussi, Rugby Australie, ils ont proposé qu'ils viennent en Australie pour faire la tournée. Donc, ça montre à tout le monde que tout le monde a croqué et il veut être inclus et être participant de cette tournée. Donc, on espère qu'on peut changer les règles parce que c'est vraiment un truc historique avec fair play, gentlemen, des règles à suivre. Donc, ça serait la première fois peut-être que ça peut se jouer en Angleterre ou en Royaume-Uni ou en Irlande, mais j'espère qu'on peut le faire.
Jérémy, on va parler de l'équipe d'Irlande, justement. Tu me vois venir, 32 sélections quand même avec l'équipe d'Irlande, tu es aujourd'hui manager depuis 8 ans maintenant, donc je voulais avoir ton regard de manager, d'ancien joueur de cette équipe d'Irlande qui va affronter une équipe de France qui est en pleine forme depuis un an, une forme de renaissance un peu depuis l'arrivée de l'ère Galtier, avec cette génération aussi. Alors, on parle beaucoup de Dupont, on parle de cette équipe d'Irlande qui est peut-être un petit peu pas vieillissante, mais on l'a vu affronter l'équipe du Pays de Galles, certes au Pays de Galles, mais à 14 contre 15, on pensait qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, et bon, ils perdent presque dans les arrêts de jeu. Quelle vision tu as de cette équipe d'Irlande, de cette génération qui arrive peut-être en fin de parcours, je ne sais pas, et puis cette renaissance de l'équipe de l'équipe de France, en tout cas ce match ce week-end, je ne te demande pas encore ton pronostic, on verra ça à la fin, mais déjà ton regard de manager.
Déjà, on voit bien que les 10 années précédentes de l'équipe de France, il y avait je ne sais pas combien de charnières qui ont changé tout le temps. Et par contre, à l'opposé, l'équipe d'Irlande, ils ont resté sur Elwood, ils ont resté sur Humphreys, ils ont resté sur O'Gara. Et maintenant, ils sont restés sur Sexton, qui apparemment, il va jouer. Mais il a 35 ans aussi. Donc, nous, on garde confiance dans notre charnière et ils accumulent 60, 80, 100 sélections ensemble. Donc, je pense que c'est une fil conducteur de notre équipe. Maintenant, on voit le changement avec Fabien Galtier, qui est fabuleux. Il y a un groupe France, qui est homogène, qui est investi, qui peut tourner, mais il garde confiance dans ses joueurs. La façon d'entraîner, ça a complètement changé. Cette notion de haute intensité, de clarité, de plan de jeu, que tout le monde sait où il va dans n'importe quel secteur de jeu, c'est fabuleux. Donc, cette fois-ci, je pense que l'équipe d'Irlande, malheureusement, on n'est pas favori chez nous et ça me gêne un petit peu parce que la performance des Irlandais la semaine dernière a joué un match international pendant 60-65 minutes à 14. C'est vraiment un exploit d'être toujours dans le match jusqu'au coup de pied raté par Billy Burns en fin de match. Donc, est-ce qu'il y aura des changements? Bien sûr. Je pense que Will Connors, le joueur fabuleux de Leinster, il va rentrer en troisième ligne pour Peter O'Mahony. Je pense qu'il y aura du changement à l'aile avec Jordan Larmour, qui est très talentueux, qui va rentrer peut-être pour Earls. Ce que me fait beaucoup de confiance pour l'équipe d'Irlande, c'est enfin on a trouvé une paire de centres qui remplace O'Driscoll et Darcy en Henshaw et Ringrose. Bien sûr, il y avait Bondi Aki qui a tenu la place pendant un moment, mais maintenant, je trouve ces deux ténacieux. On voit le retour de Henshaw pour l'essai de Tyke Byrne la semaine dernière, qui était super. Je trouve qu'on a des arguments pour embêter les Français. Mais avec le nouveau air de Galtier, je pense qu'on va être embêté ce dimanche et ça va être un match très serré.
Moi, j'ai une petite question quand même, Jérémy, avant de laisser poursuivre Raph. Question qui va être un petit peu polémique. Je te l'annonce. Murray Sexton. Cette charnière, à elle seule, elle a 150 ans et 150 000 matchs internationaux. Est-ce que on la maintient aujourd'hui coûte que coûte parce qu'on lui fait confiance, ou est-ce qu'on la maintient aussi parce que malheureusement l'Irlande n'a pas un réservoir aussi grand que d'autres pays?
Je pense qu'il y a un autre facteur qui est dedans, c'est que Farrell, il a commencé l'année dernière en tant qu'entraîneur. C'est une relève difficile après Joe Schmidt. Il n'a pas eu une année fabuleuse. Donc, il a besoin d'avoir... être un peu rassuré avec 9 et 10 dans la construction de son équipe. Et aussi, moi, je vois mal l'équipe d'Irlande passe un match international dans les années à venir sans le joue-pied de Murray, qui est très, très bon. C'est un des atouts de l'équipe d'Irlande depuis des années. Après, et je ne devrais pas le dire, mais je m'inquiète pour la santé de Sexton quand même. Parce que
c'était justement ma...
Ça fait beaucoup de fois qu'il a eu des commotions. Normalement, on ne devrait pas jouer la semaine d'après. Et nous, ici, à Brive, on suit les protocoles toutes les semaines par rapport aux impacts, les chocs aux têtes. Moi, j'ai du mal à comprendre s'il va jouer ce week-end.
Oui, c'est la discussion qu'on avait avec Jamie Cuddmore, hein, tu sais, qui a pris la parole justement, notamment sur les commotions cérébrales. Sexton, c'est quand même, c'est pas son premier fait d'arme, quand même, les KO, c'est récurrent. Tu l'as dit, il a 35 ans. Est-ce qu'il faudrait pas privilégier la santé et puis de montrer aussi l'exemple? Alors, on le sait d'un côté, quand je dis la gamelle, elle est bonne, c'est que on n'a pas envie de sortir du terrain. On a envie que la carrière continue jusqu'à 40 ou 50 ans. Vu comme tu nous as parlé des Lions britanniques et comme tu nous parles de ton rugby, on a envie de se replonger. On est de la même génération, on a envie d'y retourner. Mais il y a un moment, il faut que la machine s'arrête. Et il faut aussi que les responsables, je dirais en tout cas ceux qui encadrent, les coachs, les managers, se disent bah ouais, plutôt que de prendre le risque sur un individu, bah on va prendre le risque peut-être de le changer, de mettre une personne à sa place. Et puis, ça fait aussi confiance aussi à la nouvelle génération qui arrive. Mais il y a quand même une prise de risque qui est quand même pas qui est pas négligeable, notamment sur Sexton. Et on le sait, ça fait quand même voilà, c'est une bonne dizaine de commotions cérébrales que l'on voit à chaque fois. Et en plus, le mec s'éteint en général. Il y a quand même une prise de risque, notamment sur la santé. Est-ce que ce côté voilà, on se doit d'être exemplaire, mais aussi à ce niveau-là, je pense.
Mais comme il a dit Arnaud, après il y a le choix de joueur. Qui va remplacer Sexton? on n'est pas doté des joueurs. On a Carty, on a Hanrahan, on a Madigan de loin, Billy Burns qui était vraiment pas très bon quand il est rentré la semaine dernière. Il a tapé direct en touche. Il a fait des passes derrière les joueurs en attaque quand on a voulu chercher ce dernier essai pour gagner à la fin. Il a raté la touche qui pouvait être la touche de la victoire. On se pose des questions derrière, qu'est-ce qu'on va faire?
Une petite question piège encore, Jérémy, pour toi. T'as loué l'état d'esprit des Lions, et effectivement, vu de loin, c'est quelque chose qui nous paraît assez surréaliste de mettre des Gallois, des Irlandais, des Écossais dans un même bus et sous un même maillot. Mais pour un Irlandais, voir l'équipe nationale dirigée par un Anglais, ça fait quoi?
Ah, je pense maintenant, c'est vrai que la France…
Pas de langue de bois, Jérémy. Hein?
Non, pas du tout.
Non. Hein.
C'est vrai que la France, vous restez avec des entraîneurs français, même si Sean Edwards, il est venu renforcer l'équipe de France et il amène beaucoup, je trouve, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la défense. On voit les Anglais depuis un moment qui sont dirigés par toutes les nationalités du monde, les Gallois aussi. Avant, on avait Joe Schmidt qui a vraiment amené de plus-value. Ça fait bizarre d'être dirigé par un Anglais, mais si je peux vous décrire un peu la personnalité de Farrell, il était déjà entraîneur des Lions britanniques. Et il est venu à la tête de l'équipe d'Irlande parce qu'il a laissé des souvenirs favorables avec tous les joueurs qui étaient entraînés par lui. C'est un mec avec des valeurs qui sort du pot. C'est un leader hors norme. Et je n'ai jamais côtoyé en tant qu'entraîneur, mais les retours que j'ai eus, c'est que c'est vraiment un mec incroyable qui va faire du bien pour l'équipe d'Irlande, même si l'année dernière, ses résultats n'étaient pas incroyables.
Tu l'as dit, et on le sait, ton projet, c'est de rester encore une bonne vingtaine d'années à Brive, parce qu'il y a un super projet, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je reviens sur la notion de rêve, est-ce qu'il n'y a pas un rêve aussi, un jour ou l'autre, de pouvoir entraîner cette équipe, ou pourquoi pas devenir sélectionneur du 15 Irlandais, est-ce qu'on y pense dans un coin de sa tête, sachant que voilà, vu
ton palmarès. Mais oui, moi je réponds pour lui, bien sûr qu'il en a, bien sûr que c'est un rêve.
Je dirais non pour l'instant, parce que je suis fervent supporter de on récolte ce qu'on sème et on arrive si on mérite. Et pour l'instant, j'ai pas gagné des bonus, j'ai pas gagné des Coupes d'Europe. Et je veux continuer mon parcours d'entraîneur, d'amener mes équipes au plus haut. Bien sûr, un jour, peut-être avec Brive, avoir un peu plus de moyenne et être plus en mode haut de championnat. Oui, c'est une ambition, c'est un rêve. Mais pour l'instant, je ne projette pas plus loin que l'équipe de Brive. Je pense que c'est important de savoir où on est, de pas grandir tout bruit, de pas avoir des idées déplacées et tous les jours, c'est de donner plus-value.
Allez, on va conclure ce volet international avec ton petit pronostic sur Irlande-France et une question qui en découle forcément. Est-ce que le Grand Chelem 2021 est pour l'équipe de France?
Je pense que ce week-end, le match va être très, très difficile. Je vais donner un pronostic favorable à l'équipe d'Irlande parce que je ne pouvais pas dire malgré le fait que je suis vraiment étonné du changement de l'équipe de France. Je trouve que c'est vraiment formidable. Ça assure de plus en plus. On voit que ça évolue. Et je trouve que malgré le fait qu'il n'y a pas Entemac, on ne se pose pas les questions parce qu'il y a Jalibert derrière, Dupont, même s'il ne joue pas, il y a Serrin qui est en forme, qui est en confiance. Je vois une profondeur de cette équipe de France qui est formidable. Je vois une intensité du jeu qui est vraiment bien. je vois des joueurs comme Willemse qui vraiment changé. Je trouvais que c'était une masse avant. Maintenant, c'est un masque qui se déplace, qui claque, qui investit. Je vois des joueurs comme Crétin, comme Walky, comme Cross. On peut alterner entre ces joueurs. À tous les postes, il y a de profondeur. La seule chose pour ce week-end, je pense que l'équipe d'Irlande a un petit plus par rapport au jeu au pied. Avec le jeu au pied de Conor Murray, on a un pied gauche de James Lowe aussi. Par contre, l'équipe de France, Dupont, il est incroyable, il est dans la forme de sa vie, mais le jeu au pied, c'est pas la même qualité que Conor Murray. Après aussi, Brice Dulin, il peut emmener un pied gauche qui est intéressant aussi, mais je pense que l'équipe de France va utiliser ce jeu au pied d'occupation et l'équipe d'Irlande serait obligée chez nous de mettre un peu plus de volume de jeu. Et ça peut être le tournant de match si on arrive à mettre notre jeu en place.
Donc victoire de l'Irlande.
L'équipe d'Irlande.
et si toutefois l'équipe de France gagne en Irlande, est-ce qu'elle peut faire le grand chelem?
Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi pas rebattre les Anglais qu'on a déjà battus au mois de novembre.
On a perdu.
Tout le monde. L'équipe qui va être difficile à manœuvrer, c'est les Écossais maintenant, parce que quand ils prennent confiance, c'est comme 23 chiens de chasse. Ils sont partout. C'est comme une Braveheart revisitée tous les week-ends. Donc, je pense que l'équipe à regarder, c'est vraiment l'Écosse.
Jérémy, c'est assez troublant. Excuse-moi, Raph, je te donne la parole après, mais l'équipe de France n'a pas battu l'Angleterre au mois de novembre. On a perdu, finalement, après prolongation, mais tout le monde a retenu ce match magnifique. Oui. On les a battus dans le tournoi au mois de février, mais effectivement, mais tout le monde a retenu la performance magnifique de cette équipe de France, entre guillemets, bis. On se souvient de la presse britannique qui avait parlé de farce à la française. Mais effectivement, c'était, je pense, pour le rugby français, une très belle victoire. Raph, je te passe la parole, et on va attaquer le volet du CA Brive.
Je t'en prie, oui.
Rapidement.
Oui, le Brive qui est 9e, comme je disais, du top 14 aujourd'hui, qui dérange parce qu'elle a battu les Cadors, notamment la dernière en date, c'était Toulon à domicile. Moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a un match important ce week-end contre Bayonne. Bayonne qui avait un début de saison assez tonitruant et qui a mis un peu le frein à main. Et puis Brive qui déroule, comme je l'ai dit, le 9e. Donc, comment on aborde ce match aujourd'hui à Bayonne ce week-end? Sachant qu'aujourd'hui, franchement, vous n'êtes plus dans les papiers des équipes relégables, quoi, comme on aurait pu l'annoncer en début d'année, ce qui est plutôt agréable. On ne va pas s'enflammer. J'imagine bien que tu ne vas pas t'enflammer. Tu l'as dit, tu es anglo-saxon et tu n'es pas latin. Mais ça fait quand même plaisir de vous voir à ce niveau-là, avec cette équipe, avec ce capitaine. Enfin, il y a une certaine ferveur autour de cette équipe. Comment on appréhende ce match face à Bayonne sans s'enflammer, j'imagine?
Toute série a une fin. Heureusement, nous, on a mis enfin notre série de défaites avec une chance, une série de victoires, 6 matchs sur 7 matchs joués depuis le début de l'année. Ce week-end, par contre, c'est un match complètement différent. C'est un match de phase finale. C'est un final pour rester en top 14. Et déjà, nous, on n'a pas la mémoire courte. On sait que la finale de Pro D2, il y avait une équipe qui nous a battu dans la dernière seconde, et ça, c'est Bayonne. On sait qu'il y a une rivalité qui reste entre nous, mais on le prépare comme tous les autres matchs. Il faut qu'on garde la confiance qu'on a actuellement. On sait que le COVID a embêté tout le monde avec les matchs réorganisés, reschedulés dans le planning. On a vu le match de la semaine dernière où Bayonne, ils étaient dans le match à Castres. Après 60 minutes, ils n'étaient toujours pas très loin, malgré le fait qu'ils ont eu quelques semaines de sans match. Nous, on sait que ça va être un match compliqué là-bas. Il annonce pas très mauvais au niveau de temps. Donc, est-ce qu'on va mettre du jeu en place? J'espère que oui.
Un petit mot, Jérémy, parce qu'on a le sentiment, voilà, tu l'as dit, ce match, c'est quasiment le match du maintien quasi assuré. Une victoire de Brive. Et derrière, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'en gros, tu n'as pas le sentiment, excuse-moi, je vais employer une expression un peu grossière, mais est-ce que tu n'auras pas le cul entre deux chaises? Est-ce que tu n'auras pas l'envie, finalement, parce que tu n'es pas si loin de la sixième place, finalement, si tu gagnes ce week-end. Est-ce que l'envie d'aller frapper un grand coup et de venir titiller les cadors de ce top 14, elle est susceptible de venir nourrir tes joueurs?
La chose qui est rassurante par rapport à notre effectif, c'est que tout le monde sait où on est. On est une victoire d'être dans la course au maintien à nouveau. On est une victoire d'essayer d'être un peu plus ambitieux. Mais nous, on se concentre sur les 80 minutes à venir. On va pas projeter trop loin. On va pas regarder en bas. On va se concentrer sur ce match. Et après, on verra. Il y a des résultats très favorables pour les équipes qui se déplacent cette année. Sans public, on voit de plus en plus les équipes qui gagnent à l'extérieur. Donc, le fait qu'on a 5 matchs qui restent à la maison, ce n'est pas comme les années précédentes où sur les 5 matchs, on peut peut-être compter 4 matchs gagnés à la maison. Ce championnat, il est complètement différent des années précédentes. Donc, je pense qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. La surprise, déjà, c'est Montpellier, mais qu'ils ont retrouvé une force. Ils ont retrouvé leur jeu et ils vont embêter tout le monde. Donc, il y aura des changements dans le championnat d'ici la fin de la saison.
Oui, mais Brive, c'est une belle surprise et c'est quand même. Je trouve que c'est une équipe qui, depuis des années, même si elle a fait ce yo-yo entre la Pro D2 et le top 14, qui peut s'installer en top 14 et qui a ses valeurs très très fortes, une identité très forte, et elle est presque obligée de l'avoir. Parce que, comme tu l'as dit, vous n'avez pas de forte individualité comme les CBS, comme un peu partout dans ceux qui ont les cadors du top 14. Vous êtes obligé d'avoir cet état d'esprit, cette équipe. Le 16e homme, on le sait. Il est très, très fort aussi à Brive et vous ne l'avez pas, notamment de par la conjoncture actuelle. Moi, c'est un rugby c'est un rugby qu'on aime. C'est un rugby où on imagine les joueurs à la fin qui vont se filer des bières avec les supporters, un peu à l'ancienne. Et c'est vrai que j'ai l'impression, au vu de ce que je connais maintenant un petit peu plus de toi dans l'interview, en fait, que ça te correspond bien, en fait, ce genre d'équipe. C'est plutôt une belle histoire dont tu as toute ta place, en fait, au centre de cette équipe, c'est plutôt.
Il y a un peu d'Irlande du côté de Brive, je dirais.
Ouais. Moi j'ai la chance de venir tous les jours avec un effectif, avec le staff et tout le monde qui sont inculqués de ces valeurs. C'est une marque de fabrique. Donc, chaque jour que tout le monde vient, ils essaient de noyer cette petite plus qui va nous aider dans notre voyage cette saison. L'année dernière, c'était le maintien. L'année avant, c'était de remonter en top 14. Donc là, on est en plein vol, mais il ne faut pas casser une aile.
Oui, et puis pour conclure, on en a parlé 2 minutes tout à l'heure, Saïd Irèche qui re-signe pour un an, ça montre aussi la confiance et d'un staff et d'un club aussi derrière. Et aussi au niveau de la communication, ils ont vraiment été très bons. Et une fois de plus, j'invite les auditrices et les auditeurs à aller voir sur Twitter la petite vidéo avec les capitaines emblématiques. Et on voit les joueurs aussi emblématiques sur la vidéo, notamment David Venditti qui a joué aussi à Brive. Enfin, c'est toutes ces histoires en fait qu'on aime partager. Et Brive l'incarne plutôt bien. Saïd, c'est vrai qu'il a un parcours atypique, particulier. C'est un ancien joueur d'ailleurs du Stade Français qui a réussi à s'installer.
Il était obligé de le dire. Hein. Il était obligé de le dire, Jérémy.
Oui, mais bon, qui n'a pas trouvé sa place non plus au Stade Français, donc qui a trouvé toute sa place en tant que capitaine dans cette équipe. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des leaders aussi, des mecs qui incarnent. Et puis c'est des belles histoires qu'on aime à se raconter, comme l'a fait justement le CA Brive Corrèze sur les réseaux sociaux. Donc c'était aussi un plus encore qui montre aussi la confiance et de montrer aussi que Brive se porte bien aussi et surtout sur les valeurs. Quoi.
Saïd, il inculque toutes les valeurs de ce club, mais j'ai eu la chance d'entraîner Saïd quand il était à Aurillac, mon première année à Aurillac. Donc, on se retrouvait le matin à 8h30 quand il faisait moins 20 à Aurillac, la première année que je suis arrivé.
C'est étonnant.
Je me demandais où j'étais. Et lui, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que un jeune joueur, il a évolué, il est devenu joueur exemplaire en top 14 à Brive. Il est devenu capitaine et maintenant, c'est un capitaine hors norme. Sur le terrain, en dehors du terrain, il a le respect de tout le monde. Et je pense que les résultats de Brive, et même cette année, il a un jeu. L'année dernière, on a l'impression qu'il a rajeuni. Il n'a pas pris l'âge de l'année dernière. Il fait une saison qui est incroyable. Et je pense que avec son hygiène de vie, c'est un joueur qui s'entraîne et qui fait tout le nécessaire, malgré son âge, pour rester au plus haut niveau. C'est un joueur qui va être encore performant l'année prochaine.
Donc, on peut dire que c'est l'année de la maturité, notamment pour Saïd Iresh et aussi pour le CA Brive Corrèze. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, juste pour conclure, pour cette année? Alors, moi, je vous souhaite de retrouver votre public, bien sûr, des victoires, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette belle année? Déjà, une victoire ce week-end, on imagine, oui.
J'ai du mal à demander une victoire parce que, bon, si l'Irlande a la chance de gagner, je pense que mon staff et pas mal de joueurs vont faire la gueule. Deuxième chose aussi, si c'est une victoire de l'équipe de France, je pense que je me fais pas mal chambrer dans les semaines à venir. Donc, un match nul, je pense.
Très bien, ça marche. Et bien, merci beaucoup. En tout cas, Jérémy, j'étais ravi de... Enfin, je pense qu'on était ravis. Merci pour le choix, Arnaud, parce que c'est vrai que je connaissais peu le personnage et j'avoue que je viens de passer quand même près de 50 minutes. T'es à l'écoute, quoi. T'es un monsieur qui te parle de rugby et qui te parle avec passion, en tout cas, de son métier. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation d'un Poulain Rafut.
Ouais, merci beaucoup, Jérémy. Moi, j'étais convaincu du choix. J'aurais même aimé qu'on puisse encore développer davantage parce que je suis sûr que sur la tournée des Lions en Afrique du Sud, il y a des milliards d'anecdotes à raconter. J'ai souvenir d'un documentaire où on voit Keith Wood en juge de tribunal, si je ne dis pas de bêtises, hein, Jérémy, avec des sanctions pour les Gallois, les Anglais, les Irlandais. C'était incroyable. Et pourquoi je voulais aussi qu'on aille vers Jérémy Davidson? Parce que il y a des gens comme ça, on a l'impression qu'ils sont sous-cotés. Et quand on regarde leur CV, leur palmarès, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Je crois que Jérémy, il est dans son fonctionnement aujourd'hui en tant que manager, à l'image de ce qu'il était comme joueur. C'était un taiseux, il ne faisait pas de bruit. Par contre, dans les rocks, ça faisait crac dans les rocks et il repartait tranquillement. Voilà. Et je crois que c'est bien aussi de temps en temps, dans Poulard Infut, qui est un podcast qui se veut inspirant, comme tu le dis si bien, Raph, d'aller vers ce genre de personnage parce que le rugby mondial en regorge et ils ne sont pas suffisamment mis en valeur.
Merci beaucoup tout le monde.
Ouais, merci à toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end rugby. On va souhaiter une victoire, bien sûr, au CA Brive Corrèze
et à l'équipe de France.
À la semaine prochaine. Merci encore, Jérémy, et à très bientôt. Merci, Arnaud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.